Maintenant, tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Jacques Gérard qui est avec nous. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Comment allez-vous? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu.
Si je prends le temps de vous répondre à cette question, on en a pour 20 minutes.
Ah bon?
Eh ben oui. Eh oui, parce que je ne suis pas du genre politesse. Ou alors, je vais bien ou je vais mal. Ou... Non, 20 minutes parce que, comme chacun de nous, ça dépend. Ça dépend quoi?
Du vent, peut-être.
D'accord. Conjugal, professionnel. Le père, etc., etc.
D'accord, faites-moi une réponse conventionnelle. Dites-moi que ça va bien et tout ira bien.
Je ne fais pas ce genre de réponse, c'est ce qui fait mon originalité.
Exactement. Alors, je vous reçois aujourd'hui parce que vous nous offrez un recueil. Un recueil qui s'appelle « François, un chemin dans mes ténèbres » et en sous-titre « Pour les préventions des comportements violents ». François, on en avait un petit peu parlé déjà au cours de nos précédentes émissions. François, c'est votre fils ?
Ah, c'était.
C'était votre fils.
Ouais.
En 1984, il a été.
Il a été violé et tué.
Violé et tué par un.
Par un jeune homme de 18 ans.
Mmh.
Donc, au moment où moi je m'apprêtais à accueillir des ados en difficulté, parallèlement à cela, et ça n'a rien à voir avec mes ados en difficulté, lui est arrivé ça, François.
C'était vraiment parallèle parce que dans le recueil, vous dites 6 mois après. Donc j'ai cru que c'était une réaction.
Non, je préparais mon projet et 6 mois après est arrivé cet événement. J'ai commencé à préparer mon projet en 83, d'accord. Et 6 mois après, c'est-à-dire le 5 février 84, François a été tué, violé à Valence, au parc Jouvet même.
Vous aviez déjà écrit sur ce drame qui vous touche?
Alors, je n'ai pas écrit directement. J'ai écrit un livre dans lequel j'en parle, qui est le livre donc, de chair et de sens avec mon ami le sociologue Bertrand Bergier. En 2004, il est paru chez L'Harmattan.
D'accord.
C'est très autobiographique. J'avais besoin de vider mon sac par un écrit. Et c'est ce qui s'est fait en 2004.
Et là, vous nous proposez ce recueil avec un sous-titre hein, pour les préventions des comportements violents. Pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire ce recueil de
Pourquoi de Je vous proposer. Assure que j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le besoin a été ressenti. C'était ma façon de boucler quelque chose et en même temps une synthèse, à savoir 4 textes qui sont à la fois, où il y a un peu de redites parfois, mais en même temps qui sont très complémentaires. Sur, on va dire, les années qui ont suivi ce drame, les années qui ont suivi ça, j'ai réfléchi, et puis j'ai pensé, puis j'ai fait beaucoup de choses. Et du coup, à un moment donné, c'était une façon pour moi de clore un certain chapitre, et en même temps de dire comment moi je voyais les choses. Et ça, c'est important.
Alors, François, on l'a retrouvé dans un parc, vous me disiez.
François, son corps a été découvert 48 heures après. Dans le parc Jouvet de Valence. C'est là qu'il a été violé et tué.
Et son agresseur
Patrick Thomas, et il sera découvert 3 mois après.
3 mois après. Et là, vous avez quand même un choc quand vous découvrez qu'il est jeune.
Alors, quand je découvre qu'il est jeune, mais quand je découvre que c'est une personne, c'est-à-dire ça vous amène, tout dépend, je ne peux pas généraliser, parce que la plupart de mes semblables, ça les amène à parler de monstres. Moi, pas. Ça m'amène à dire que voilà un semblable jeune, qui a commis ça. Voilà, donc je découvre un jeune homme qui n'a pas un physique tordu, même pas du tout, il est même plutôt pas mal physiquement. Et c'est lui qui a fait ça.
Et qui est très jeune, c'est surprenant.
18 ans, voilà, 18 ans au moment des faits.
Et François, lui, il a 9 ans. Donc,
François a 9 ans.
Et alors, on s'attend en général... Puisque vous me disiez au début de l'émission, vous ne réagissez pas comme les autres. Hein, vous
non, même... dès le départ.
Quand on vit
et
ce
je
genre
m'en félicite.
De... vous avez raison, c'est votre personnalité, votre différence, c'est vous-même. En tous les cas, vous ne réagissez pas comme on s'y attend, c'est-à-dire...
C'est moi-même avec une question, Serge. Et cette question, elle est majeure et elle est le fil rouge de tous mes propos. À savoir, comment une personne peut en arriver là?
D'accord.
C'est la seule question qui, pour moi, m'a paru valable. Et tout le reste, c'était du blabla. Comment quelqu'un peut en arriver là? C'est 30 ans de ma vie, 30 ans de clinique même, que ce soit une clinique avec des adolescents en tant que psychoéducateur et à la direction d'une structure d'accueil, que ce soit ensuite une clinique des professionnels de l'enfance en danger en tant que consultant et que ce soit ensuite une clinique avec des adultes en souffrance, n'importe qui, du reste pas n'importe qui, le commun des mortels, en souffrance, qui vient frapper à ma porte, et là j'ai des réponses du côté du psychothérapeute. Mmh. Ça fait 30 ans tout ça, mis bout à bout, plus du temps que je vais aller passer pour me prendre du recul. Il y a un texte qui en parle bien, dans le Haut Atlas occidental pendant 8 ans.
D'accord, ça on peut le retrouver sur internet, hein, sur le texte dans le Haut Atlas.
Je ne sais plus si on le retrouve aujourd'hui.
D'accord.
On peut le trouver possiblement sur Psycho-Ressources.
Je crois que c'était ça. Il me semble qu'il y en a des extraits en tous
ouais,
les cas.
Mais, ouais, tout à fait.
Alors, ce que j'essayais de dire, c'est que quand même, au lieu de voir dans ce Patrick un monstre qu'il faut abattre, vous avez essayé de le comprendre et ça vous a même replongé vous-même dans votre propre histoire.
Attendez, il faut d'abord reprendre les choses dans l'ordre. Ces 6 années de procédure judiciaire.
D'accord.
Donc, essayer de le comprendre, c'est pas tout à fait ça. Ces 6 années de procédure judiciaire, c'est quelqu'un qui sera remis en liberté par un système approximatif, c'est comme ça que je l'appelle, qui fait qu'à un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'il fait en liberté. Voilà, donc il va y avoir des rebondissements, pas mal. Mes textes en parlent,
oui,
de tous les grands rebondissements qu'il peut y avoir. Ça va de la rencontre clandestine sous l'œil d'une caméra, et ça fera un scoop, pour qu'enfin, et ça c'était, on m'a invité, mais moi mon objectif c'était qu'enfin le judiciaire se ressaisisse de son bébé. Et ça a marché, tant mieux. Donc c'est ressaisi, ensuite à juger, et ensuite reconnu coupable, à condamner. Ça c'est le boulot du judiciaire, pour le moment.
D'accord.
Et puis à l'intérieur de ça, y a mon fils qui va, à un moment donné, avoir par exemple un face-à-face avec celui dont on est convaincu, il n'a pas été jugé, dont on est convaincu qu'il a tué et violé François. Un face-à-face dans une piôle clandestine à Lyon, et le face-à-face sur un truc, j'en parle également dans un autre texte, dans lequel j'explique comment ça s'est produit. Et que du coup, à l'insu de moi-même, il me faudra 10 minutes pour réaliser que Samuel qui n'est pas là, ben en fait, il en a piôle de l'autre parce que le producteur lui a demandé
Samuel,
d'aller garder...
c'est votre deuxième fils, hein. C'est un autre
fils. Ouais, c'est l'autre fils, d'aller garder, à la limite, le corps de celui qui est dans la piôle. Parce que l'autre, il avait les jetons. Enfin, c'était vraiment un truc assez scabreux.
Il envoie votre fils garder l'assassin de votre autre fils, quoi. C'est ça?
Oui, mais attendez.
C'est aberrant.
Contextualiser. Ouais. Il n'est pas assassin, il n'est pas encore jugé.
D'accord.
Donc je ne vais pas me substituer au judiciaire, puisque moi, je n'ai pas arrêté de demander que le judiciaire fasse son boulot. Ce n'est pas pour le faire à sa place. Donc du coup, j'emploie les mots qui correspondent à la situation.
D'accord.
Donc il est présumé. Nous, on est convaincus, archi convaincus, que c'est lui qui a tué. Mais entre convaincu et être jugé, il y a une marge. On peut être convaincu et lui, à un moment, il peut être remis en liberté. Oui. Ça tient à peu de choses.
Hein. Il a finalement été jugé
parce qu'à un moment donné, le scoop a été énorme. C'est Poivre d'Arvor aux 20h. C'est Christine Bravo au 90e rugissant. C'est 4 pages dans Libé où on voit le père face au bonhomme. Et donc ça fait un tel scoop que je crois que le judiciaire, il avait qu'un seul truc à faire. C'est reprendre son bébé qu'il avait mis en liberté sous contrôle judiciaire. Peut-être en attendant d'être jugé, on n'en était pas sûr. Alors là, du coup, on en était sûr. C'est-à-dire 3 mois après, il était... Même pas 1 mois après, il était remis en prison. Et puis, les journées du 6, 7 et 8 mars 90, d'accord ? Eh bien, 6, 7, 8 mars 90, il sera repris et il sera condamné, reconnu coupable, condamné. Viol aggravé, coup et blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est le chef d'accusation. Il y aura au passage même un changement du chef d'accusation. On n'est plus sur meurtre.
D'accord.
Voilà. Mais en même temps, l'esprit de la loi, c'est que ça doit profiter à l'accusé. J'ai rien à dire à ça. C'est-à-dire, coup et blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. D'une, j'y étais pas, ça c'est clair. Et de deux, il n'y a rien qui pouvait prouver l'intention de donner la mort. Pas du tout. Donc du coup, ok.
À cette époque, vous étiez dans quel état d'esprit ? Vous vouliez une vengeance ? Vous vouliez
pas
que
du tout.
Ce monsieur soit
je voulais
condamné ?
Que le judiciaire fasse son boulot.
D'accord.
Pas autre chose. Et moi, je continuais à travailler avec les adolescents jusque dans les années 95-96. Voilà. Et puis en même temps, il y avait eu au passage, entre les années 86 et 90, perso, je rentrais dans tout un tas de champs de formation.
Puis vous êtes parti dans le Haut Atlas.
Je suis parti dans le Haut Atlas en 99.
Et vous y êtes resté quelques années quand même.
8 ans.
Alors vous avez prouvé quand même le besoin de vous extraire, de partir
c'est
ailleurs.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Vous avez.
J'avais besoin de passer à autre chose. J'avais besoin de me prendre du recul par rapport aussi à mes semblables, mes compatriotes, comme on dit. J'avais besoin de prendre de la distance, du champ, et de me retrouver dans un milieu de nature que j'avais déjà rencontré dans le Haut Atlas et dans d'autres endroits du Maroc. Et j'ai passé 8 ans là-bas.
Et ça vous a plongé sur vous-même aussi, non ? Vous vous êtes posé alors pas mal de questions.
Alors ça, c'est encore un autre chapitre. C'est effectivement, en 86, je commence à sentir mes démons intérieurs qui commencent à me chatouiller. Et là, c'est la nécessité pour moi de me reprendre une tranche de psychothérapie qui va durer 12 ans. À l'occasion de laquelle, effectivement, je vais avoir à repérer des choses dans ma propre histoire. Voilà. Comment quelqu'un peut en arriver là ? Eh ben, je le sais parce que j'ai fait le chemin à l'intérieur de moi. Numéro un. C'est pas du théorico-fumeux. C'est du vécu. J'ai fait un chemin. On m'y a accompagné, des gens tout à fait de qualité et compétents. M'ont accompagné pour que moi j'arrive à extraire de ma propre histoire tout ce qui était de l'ordre de la souffrance et de la détresse.
Et ça vous a servi ensuite à...
À partir du moment où je le dirais et je généraliserais, à partir du moment où un être humain, quel qu'il soit, il a vraiment accès à la détresse qui est en lui, je pense que son regard change. Et son regard, y compris par rapport à l'environnement, c'est-à-dire par rapport aux autres. Mais c'est une condition sine qua non. Il y en a plein, y compris dans les trucs, les appels comme ça, du développement personnel, qui font évitement de ça. Et même des psys qui font évitement de ça. C'est-à-dire d'aller rencontrer en soi, là où ça fait détresse. Pas comme Jean-Jacques Gérard. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de soi. Mmh. Et quand les personnes ont fait un chemin suffisamment long avec eux-mêmes, accompagnés, je précise, alors il y a des chances qu'à un moment donné, ils pigent un peu mieux ce qu'il en est. Mais surtout de commencer par soi.
C'est un constat que vous faites aussi chez les autres psychologues ou dans la profession.
Ben, je ne sais pas chez tous, mais il y en a certains, je vois souvent ça. Ouais.
Vous dites qu'ils ne vont pas eux-mêmes au fond d'eux-mêmes. Difficile d'aider quelqu'un quand on n'a pas fait ce chemin.
Alors ça d'une part, et puis s'agissant des psys ou psychanalystes ou psychologues, etc., même cliniciens, il y en a un certain nombre qui font l'économie de ce que le boulot appelle, qui s'appelle la supervision clinique. Moi, je n'ai jamais cessé d'être en supervision, c'est-à-dire de référer à un tiers qui est compétent, qui vous écoute, qui ne vous juge pas, et qui peut... Et la relation est féconde parce que vous vous nourrissez des retours. Qu'est-ce qu'on lui parle de ce tiers ? On lui parle de ce qui fait difficulté dans nos pratiques cliniques. Et comment ces difficultés viennent nous rencontrer. Et ça, c'est hyper important pour un vrai professionnel. Là, je souligne. Mais il y a des vrais, puis il y a des faux.
Oui, c'est vrai, parce que si on n'a pas peut-être vu soi-même ce qu'on avait en soi, ce qui nous a marqué, on peut avoir des réactions qui ne sont pas naturelles, qui sont commandées, précommandées.
Qui vont être déterminées par réaction, vous l'avez dit, c'est-à-dire je réagis à, et si je réagis à, c'est bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vient toquer. Si je n'ai pas accès à ce qui se passe en moi qui vient toquer à l'occasion de l'autre, on est sûr que je passe à côté de mes pompes. Et on est amené...
Et je n'aide pas l'autre.
Pardon ?
Et je n'aide pas l'autre
non.
En réagissant. Puisque
non,
moi-même...
ça fait une impasse.
D'accord.
Et l'autre ne peut pas y avoir accès non plus. Donc tout ça, quand on a fait, c'est des années de travail, et de travail sur soi, et de clinique, c'est-à-dire de pratique avec des personnes qui sont en demande.
Sur la tombe de votre fils, il y est écrit, c'est ainsi que François est mort, il fut victime de la détresse d'un autre.
Tout à fait.
Ça résume un peu...
Complètement, vous avez bien pigé. Cette phrase, elle dit tout. Mais elle dit tout, mais elle, pour certains, elle est vécue comme violente.
C'est très dur. On a du mal à imaginer la détresse
du violeur. Par rapport à ce que je vous disais précédemment, et c'est évident qu'on a du mal à imaginer.
Ah oui.
Mais vous le dites bien vous-même, c'est par l'imaginaire que ça se passe.
Oui, oui.
Or, à un moment donné, pour rencontrer la détresse en nous, l'imaginaire, on est amené à faire un pas de côté. Donc, il ne s'agit plus d'avoir du bien ou du mal à imaginer, il s'agit de rencontrer. Et là, c'est complètement autre chose. C'est un sentier ou un chantier même dialectique, pour moi, qui est unique. Mais en tout cas, qui est une condition sine qua non pour mieux entendre celle de l'autre. Or, les gens qui vont frapper à votre porte, c'est un fait, qu'ils soient PDG ou ce qu'on veut, mais c'est qu'il a de la détresse. Et cette détresse, il va lui falloir du temps pour l'entendre. Mais si le psy, lui, il n'est pas prêt à entendre la sienne, il peut aller planter les choux. Aujourd'hui, je suis radical avec ça.
Je vois. Mais ça vous donne aussi une vision, une pensée de la justice et de la prévention des comportements violents.
Attendez, la justice, d'abord, ça n'existe pas, si ce n'est une vertu. D'accord ? La justice, c'est une vertu.
Du système juridique.
Et l'institution judiciaire.
L'institution judiciaire.
C'est des hommes qui font ce qu'ils peuvent dans une société donnée. Voilà. Et parfois, ils font des sacrées conneries. Mais pas que. Parfois, ils font des trucs chouettes.
Vous n'êtes pas tendre avec eux. Vous dites quand même qu'on est dans la loi du talion, là.
Mais j'ai pas besoin d'être tendre. J'ai qu'à lire le code de procédure pénale. J'ai pas besoin d'être tendre. C'est-à-dire qu'il est, le code de procédure pénale, quand on le lit, il est traversé par, effectivement, quelque chose qui transpire la vengeance, qui transpire, et on a des mots. Punir, incarcérer, il y a plein de mots comme ça qui nous disent où on en est. C'est-à-dire, on est à répondre à la violence par de la violence. Ben, qu'on continue.
On appelle l'autre le monstre aussi.
Alors ça c'est dans le, c'est dans les médias, ça.
On est aussi dans l'imaginaire.
On fait un Nordal Lelandais, un monstre, on fait machin, on fabrique du monstre. Fournirais, j'en passe des meilleurs. Et moi je dis, ça c'est une vue de l'esprit, c'est de l'imaginaire. Vous le disiez tout à l'heure. C'est de l'imaginaire du même tonneau que le Père Noël. Hein.
Ouais.
Kiff kiff pour moi.
On est dans un conte un petit peu.
On est dans un conte. On est complètement dans un conte, mais on le sait pas, Serge. On sait pas du tout. Mais on est dans un conte. Donc il va falloir le temps pour s'en apercevoir. Sans compter tout un tas de projections qui se font. Les parents à qui ça arrive la plupart du temps, ils s'en rendent pas compte. Et si je ne rappelle pas que tout ça, c'est pas conscient, ils s'identifient à l'enfant mort. S'identifiant à l'enfant mort, il n'y a plus d'accès au plaisir. C'est des survivants. Et qui vont effectivement continuer, et puis on le voit bien, ça se met formidablement en scène quand on arrive en cour d'assises. Alors là, le victimaire a plein pot.
On est dans le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Vous avez rencontré Robert Badinter.
Alors, Badinter, j'ai eu un échange avec lui.
Ouais. Qui vous a dit, j'ai fait ma part, à vous la suite.
Oui, tout à fait, parce que Badinter, je lui disais textuellement que je trouvais fondamentalement puissant l'abolition de la peine de mort, comme un socle civilisateur, et je le pense toujours, mais en même temps, si ce n'est pas assorti de toute une dynamique préventive, alors ce sera de la démagogie. Et Badinter me répond, j'ai fait ma part, donc l'abolition de la peine de mort, bah vous la suite, et je vous y encourage. Et ça... je lui faisais part de mes constats, de ce que j'avais vu, du chemin que j'ai fait, avec toutes ces salades, toutes ces histoires, tous ces drames terribles, et que j'ai compris quand même deux, trois trucs, parce que 30 années dans les sentiers de l'enfance en danger, y compris d'accompagner les soi-disant éducateurs, on commence à piger des trucs quand même. Hein. Et puis plus 10 ans, plus mes retraites dans le Haut Atlas, tout ça c'est un chemin. Et le bonhomme aujourd'hui, bah, il s'est autorisé à parler. Il a fait ce chemin-là. Bah, il n'a pas fait tous les chemins, mais il a fait celui-là. Et ça l'a amené à piger, à voir complètement autrement, d'avoir une carte du monde complètement renouvelée.
Ce qu'on comprend aussi quand on lit votre recueil, c'est que ça pourrait tous nous arriver avec cette petite phrase je ne sais pas ce qui m'a pris ou
bravo.
Je ne me rappelle plus.
Merci Serge de souligner ça, qui est un carrefour. C'est le carrefour du plus fort que soi.
Voilà, c'est plus fort que moi.
C'est plus fort que
on
moi.
On l'a tous dit, c'est vrai.
Mais alors, on le dit plein de fois. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a en moi du plus fort que moi. C'est pas seulement le mec en face, il est plus fort que moi, il m'a cassé la gueule.
Non.
C'est il y a en moi du plus fort que moi. Je voulais engueuler mon gamin, je lui ai foutu une tarte dans la gueule, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça a été plus fort que moi. Le mec qui a buté le gamin, dont j'ai eu la mère qui est venue me voir, le mec, il dira, il s'est rendu à la gendarmerie, il l'a buté à un coup de fusil dans la tête, terminé. Et il dira, j'ai vu rouge, je sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi. Dès que j'ai vu rouge, ça m'a dépassé. Et à ce moment-là, il ne me restait plus que le flingue. Le mec auquel je pense, il a 65 balais. Il y a une histoire, bon, je passe les détails. Et il monte chez lui, il a les boules d'enfer. Et il cherche son chien. Il cherche pas le fusil, hein. Mais il trouve pas son chien. Ça lui a redonné de la tendresse ou un truc comme ça. À tous les coups, hein. C'est pas par hasard s'il a commencé. Il trouve pas le chien. Il trouve le fusil. C'est étonnant, hein. Déjà, le mécanisme était en lui, était plus fort que lui. Alors, il trouve le chien, et il trouve le fusil. Il redescend avec le fusil, il voit le jeune qui l'avait un peu nargué. Il faut dire que le jeune, il avait vu son père se faire casser la gueule il y a quelques jours avant par ce mec-là.
D'accord.
Donc, il a peut-être sorti un truc haineux, à tous les coups. Et l'autre, c'est venu le chercher dans un endroit qui était plus fort que lui. Il l'a buté. Dans ce contexte-là, moi j'ai eu par la mère le procès verbal de première audition du bonhomme en question. Donc c'est du... Ouais. Et après, 10 minutes après, il était chez les gendarmes.
Alors d'après vous, on peut travailler sur ça, prévenir ces comportements violents?
Attendez, C'est tout un programme, c'est tout un projet. Mmh. Ça demande, si vous avez, vous lisez bien mes textes, vous verrez qu'à un moment donné, je dis à partir du moment où on a fait les constats, ensuite il va y avoir à réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelais, peut-être encore un peu maintenant, à créer une équipe pluridisciplinaire, à coordonner une équipe pluridisciplinaire, philosophe, sociologue, psychologue, juriste, histoire des lois, etc., pour pouvoir aller dans les déclinaisons factuelles. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire, à partir de ces constats, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et déjà, ces constats sont dans l'ordre de la prévention, de répondre à une question pareille. Comment on en arrive là ? Bon, le bonhomme, il a répondu à cette question-là. Mmh. À partir de là, il dit, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est les déclinaisons préventives et ensuite sensibiliser le politique. Et ça, c'est notre paire de manches. Sacré boulot. Parce que ça change, on n'est plus dans les mêmes zones de logique. C'est terminé, ça. Les logiques habituelles, c'est terminé. Je pense que là, la formation de tous les travailleurs sociaux, les modes institutionnels, y compris la dite prison, il y a à la penser complètement autrement. On regarde plus l'humain de la même façon. C'est un changement de paradigme. C'est comme ça que ça s'appelle. Et fort de ce changement de paradigme, on peut pas changer le paradigme et avoir les mêmes modalités qui, soi-disant, répondent et répondent à rien, si ce n'est à la violence par la violence.
Ça nous demande de sortir d'un cadre un peu un film, quoi. C'est-à-dire, au lieu de voir un monstre, il faut voir un humain. Comme
non,
nous.
Moi, non, attendez, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous faire marrer. Il faut, Yaka, tu dois, il suffit d'eux, c'est pas mes potes.
D'accord.
Donc, moi, j'ai vu l'humain, comme j'ai vu l'humain en moi, comme je vois l'humain chez l'autre. L'humain, c'est toutes les couleurs. Selon son vécu, selon son histoire, d'accord, personnellement, j'ai rien à envier à l'histoire de Patrick Thomas. D'accord ? Perso, j'ai rien à envier. J'ai eu à retraverser une histoire où moi, à 5 ans, j'avais ma mère avec un couteau dans les mains qui menaçait de me tuer. D'accord ? Et j'en ai eu plein des histoires comme ça quand j'avais 5 et 6 ans. Et avec ça, on fait un mec qui ne sait plus où il habite. Et plus tard, ça devient un adolescent qui se fait virer de tous les collèges et lycées. Il a des conduites, voilà. Mais on a oublié. On ne sait pas, on ne saura jamais ce qu'a vécu cet adolescent-là. Ben, ce qu'il a vécu, je viens d'en donner un exemple. Allez, un deuxième exemple, ce sera pas mal. Cabanon, en plein hiver. Cabanon où on met le charbon, fond du jardin, il fait nuit. Le gamin, on le met dans le cabanon. C'est la punition du jour. Mmh. Et dans le cabanon, s'il gueule, on lui balance des sauts de flotte en pleine gueule. C'est la punition du jour. Le même gamin, on peut lui dire pendant une demi-heure, tu vas te mettre à genoux sur le manche à balai. Aujourd'hui, j'ai plus de ménisque. Mmh. C'est la punition du jour. Et encore, et encore, et encore. Donc, voilà. Donc, tous ceux dont on parle, sans exception, de l'Hollandais à Fourniret, en passant par machin, ils ont tous des histoires semblables dans leur histoire. Sauf que, ils ne le savent plus. Ça a tellement été refoulé. Ça a tellement c'était terrible. Le refoulement, il faut quand même savoir ce que c'est. Mmh. Quand on est en pleine détresse et qu'on est minot, qu'on est dépendant de l'environnement, c'est-à-dire les adultes, eh bien, à un moment donné, on ne peut faire que refouler. Parce que c'est terrible. On ne le dira jamais assez. Et ces détresses-là, la plupart du temps, mes semblables, ils ne veulent pas s'y coltiner. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu la même chose que moi. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils... Mais ils ont leur propre détresse. Ils ont leur propre détresse parce que tous autant qu'on est, on a eu besoin d'un certain nombre de choses. Et ces choses dont on a eu besoin, en venant au monde, il y en a toute une partie qui nous a fallu refouler parce qu'elles n'ont pas été considérées. D'accord ? Il n'y a pas ce matin encore, j'étais avec une patiente qui cherchait à dire sa détresse et parfois sa colère dès 4-5 ans. Et en face, on lui disait « c'est rien, c'est pas grave ». Et il fallu qu'elle se démerde avec c'est rien, c'est pas grave. Alors moi aujourd'hui, je dis c'est rien, c'est pas grave, c'est pas mes potes. Ça, c'est de la violence.
Et plus on lui dit, plus ça fait monter quelque chose.
Bravo.
J'imagine.
Bravo. J'ai l'expérience, moi, d'un gamin, mais je vais faire mes courses. C'est tout con, mais sauf que je prends mon temps. Alors je prends mon temps et je regarde l'environnement. Et un gamin est venu me chercher parce qu'il était angoissé. Parce qu'il avait rendez-vous avec son père qui n'était pas là. Le gamin avait 7-8 ans. Et du coup, je m'arrête. Et à un moment, il me demande mon portable. Je sors mon portable, mais moi, avec mon portable, je peux recevoir et pas envoyer. Ça, c'est ma gestion à moi de mes besoins. Donc, il n'était pas utile pour ce gamin. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas grave, c'est rien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'a dit ce qui lui arrivait. Je l'ai écouté, je lui ai dit, comment je peux être utile ? Texto, hein. Comment moi, d'ici, maintenant, on se connaît pas, hein, on s'en fout. Comment je peux être utile ? Monsieur, est-ce que tu peux rester avec moi le temps que mon père, il arrive ? Oui. Voilà, point. C'est pas grave, c'est rien. Et ben, qu'est-ce qui se passe en face de moi ? Je vous jure, le gamin, pssiou, tranquille. tranquille. Il a senti que le grand, c'est pas si évident. Il regarde un mec qui fait un 92. Oh. C'est pas si évident. Et ben le gamin, tranquille. 2 minutes, chrono. Mais s'il avait dit, c'est pas grave, c'est rien, mais j'étais à côté de mes pompes, j'étais à côté de lui. J'étais pas en relation avec lui. Mais là, j'ai été en relation avec lui, ça fait toute la différence.
Ça change tout.
Et c'est tellement vrai que le gamin, après, il me tire la manche, il me dit, monsieur, au fait, j'ai oublié de te dire, là où j'habite, c'est derrière. D'ailleurs, ça disait bien qu'il était calmé. Mmh. Et il me dit, tu peux y aller, monsieur. Texto, hein. Mmh. Je lui dis, je peux y aller? Ouais. Ok, alors écoute, on va faire comme ça. Tu vois, il y a la porte Saint-Roch qui est là-bas. Je vais avancer encore plus doucement. Si tu changes d'idée, tu viens me chercher, tu me tires par la manche. T'es d'accord? On passe ce deal ensemble, ce contrat. Il me dit, c'est d'accord. Putain, quelle belle rencontre.
Ce que vous dites, justement, dans votre recueil, c'est que votre approche met en avant le fait que le sujet prévaut sur l'acte qu'il a accompli. Il vaut mieux s'intéresser à la personne.
Il y a une personne qui a accompli un acte.
C'est plus la personne
terrible,
que l'acte, quoi.
Qui est terrible. L'acte, il est terrible. Il ne s'agit pas de nier ça. Il est terrible, il est sidérant, il est violent, il est tout ce qu'on veut. L'acte. Et c'est une personne qui a commis l'acte. Et après, c'est... Alors moi, je ne dis pas il faut. Encore une fois, je ne suis pas du tout là-dedans. Les gens font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent, ils se démerdent. Mais moi, là où je suis, j'entends que ma parole soit entendue. Ça, c'est clair. Et je ne pense pas du tout, comme la plupart, dans tout ce que j'entends, que je connais. Mais vous imaginez bien quand... On est en 84, Serge. Il y a pas mal d'années qui sont écoulées. Il y a 37 ans. Mais en 37 ans, compte tenu de ce que vous pouvez lire, qui est d'une certaine façon une synthèse, d'accord ? Mais voilà. Mais ça a été mûri, archi-pensé. Et en plus, du mec qui a travaillé sur lui, on va dire, en termes d'accompagnement psychologique, là, sur ces 37 balais, si je regarde que ça, il y a une vingtaine d'années de travail sur moi, avec des méthodes différentes, en groupe, en individuel. Mais c'est tout un chemin, oh.
Vous pensez qu'il faut réformer ?
Je pense qu'il faut aujourd'hui, moi, parce qu'apparemment, ça fout les jetons autour de moi, j'ai suffisamment eu de retours quand même sympa, encore hier, avec, je le cite parce que c'est quelqu'un, bon, il est connu, mais c'est quelqu'un de très chouette, j'aime beaucoup personnellement, c'est, des fois j'oublie son nom, tellement je l'aime bien.
Ça peut arriver.
Ouais. C'est vraiment, je vais le trouver tout de suite parce que j'ai reçu sa carte et elle est très touchante, cette carte. Olivier Douville, il est psychanalyste et anthropologue, Olivier Douville. D'accord. Et Olivier, il m'a envoyé vraiment, lui-même m'encourage, il me dit, vous avez encore un train d'avance par rapport aux autres, y compris dans le domaine, dans le champ de la clinique, de ce type de clinique, hein, très particulière, de clinique, on va dire, victimologique, pour dire un mot, quoi. Et j'ai eu des contacts avec des Canadiens. Certains, ils entendent très bien. Voilà. Mais en même temps, cette parole, elle est loin d'être... je parle au niveau public.
On a du mal à l'entendre, c'est clair.
Ah, putain !
Ah non, mais je vous le dis, même moi, des fois, hein, en lisant le livre, je me dis que c'est dur. C'est pas facile de passer ce pas.
Même si
en fond, on sent que vous avez parfaitement raison. C'est important de voir l'humain dans l'acte.
Et en même temps, vous le dites d'une autre façon. Mais vous le dites, on est confronté à nos préjugés, on est confronté à notre imaginaire. C'est ça qui fait violence.
À nos peurs aussi.
À nos peurs, bravo. C'est tout ça qui nous fait violence à la lecture d'un truc comme ça. Et je le perçois de mieux en mieux, ça. Donc du coup, ça me rend modeste, hein. Moi, j'avance, mais en même temps, on ne changera pas ma parole. Enfin, elle s'est construite sur toute une histoire perso, évidemment, mais aussi une histoire professionnelle. Il y a les deux. Et là, ça devient sacrément crédible. D'accord ? Et puis, en même temps, c'est aussi l'histoire d'un mec comprenant qu'il était très mal avec cette tragédie, qui va d'abord aller voir en lui, quoi. Et ça va faire toute la différence, parce qu'à partir de là, son écoute n'est plus la même. Il va d'abord aller voir en lui. Et il va trouver dans ses fantômes de son histoire. Certains trouveraient dans les fantômes de leur histoire, c'est pas la même. Mais des choses, des fois, qui sont assez carabinées. Mais elles apparaissent pas au premier regard, au premier chef. Parce que quand, encore une fois, j'y reviens, le minot, il est dépendant. Il est dépendant. Et pour lui, les parents, ils sont tellement portés. La façon dont sont portés, la zone d'appartenance, c'est-à-dire au départ le couple, ensuite la famille, mais la façon dont c'est porté, mais d'une certaine façon, c'est d'une extrême violence. Parce que le minot, lui, c'est comme si toute la société lui dit, ta vie dépend d'eux.
Mais oui.
Ton papa, ta maman, ton père, ta mère, ta vie dépend d'eux. Donc quand eux, ils nous servent une soupe qui est quand même assez pourrie, souvent, parfois ou des fois en partie pourrie, mais comment va faire l'enfant pour s'en sortir? Il va falloir qu'il refoule tout ça. Il finira par croire même, au bout d'un certain temps, que c'est normal.
Il va se construire des choses, non?
Et il va se construire tout un univers en lui qui va...
Le protéger.
Qui va le protéger, mais en se protégeant, quand il arrive à 30 balais, le même, à 40 balais, ce qu'il croyait l'avoir protégé, qui en partie l'a protégé, ça ne le protège plus.
Ça se retourne contre lui.
Ça va se retourner contre lui. Et là, du coup, c'est là que ça commence à craquer. Et quand ils arrivent chez moi, c'est-à-dire en tant que psy, ça y est. C'est-à-dire, les modes de fonctionnement ont commencé à craquer. Et avec eux, tout un tas de croyances, Serge, tout un tas de croyances qui sont des représentations. Quelles qu'elles soient les croyances, c'est des représentations. Magritte, le peintre, nous le dit bien avec sa pipe. Ce n'est pas une pipe, c'est-à-dire le mot n'est pas l'image, l'image n'est pas l'objet. Et certains croient que ce qui se représente du monde, c'est la vérité. C'est faux, c'est pas la vérité. Et quand on fait le travail que je fais, d'abord que j'ai commencé par moi et ensuite accompagner les autres, on se rend compte que les gens, ils s'en racontent des tonnes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cons, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles, pas du tout. Mais ils s'en racontent tout ce qu'on leur a fait bouffer. L'autre jour, je soulignais un truc, mais qui est quand même, qui est tout compte à portée de nos mains. Vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Ça, cette leçon, il faut que tu la prennes par cœur. Tout le monde a entendu
ça. Ah bah oui, bien sûr.
Mais en réalité, ce n'est pas par cœur, ce n'est pas par le cœur, c'est par la tête. Et ça, c'est un piège énorme, énorme. Mais on l'a tellement bouffé, ce piège-là, qu'on se fait le relais de ce genre de conneries.
On le relève
même pas.
C'est pas
par le cœur. Par le cœur, moi j'ai gardé dans mon cœur deux poèmes de Rimbaud. Deux, pas d'autres. À côté de ça, en récitation, on faisait la récitation de l'époque, j'avais toujours 10 sur 10. Mais j'avais pas mon cœur. Qu'est-ce que ça vaut 10 sur 10 quand il n'y a pas le cœur? Eh ben ça vaut que dalle. Ça vaut de la merde. C'est pareil que celui qu'on lui dit, si tu veux grandir, tu vas avoir une situation plus tard, il faut... C'est les peurs des parents.
On mange de la soupe.
Mais on appelle ça... Alors, ça commence par la soupe, ça continue par le fait qu'il faut que tu deviennes ingénieur. Et si toi, tu as le malheur de dire, à l'intérieur de ton cœur, que c'est la musique qui t'intéresse, que c'est la peinture qui t'intéresse, on dit, tu vas pas gagner ta vie avec ça, et on dit, laisse tomber. Alors, un de mes adages, fort de ce que je suis en train de dire, c'est comment gagner sa vie sans la perdre. Et ça, j'y tiens, sans la perdre. Et donc, cet adage, il vous invite à déconstruire tout un tas de croyances. Mais tout un tas de croyances. Que ce soit la croyance en telle image de l'amour, la croyance en telle spiritualité. Oh putain, là, alors là, dans le champ actuel, ça, c'est meumeux. Ce sont des façons d'éviter. Et c'est pas par hasard si dans certains milieux, la colère n'a pratiquement pas le droit de citer. C'est la première des sentiments qui est zappée. Et pourtant, ça fait du bien.
Alors, dans votre recueil, dans votre livre, François, Un chemin dans mes ténèbres, pour la prévention des comportements violents, vous parlez donc beaucoup de personnes qui ont des comportements violents. Mais aujourd'hui, l'actualité, par exemple, on est dans le procès des attentats du 13 novembre. Est-ce qu'on peut avoir le même cheminement de pensée par rapport à quelqu'un qui va aller se faire exploser?
Je pense
on n'est pas dans
là...
le même personnage.
Mais en même temps, sur le fond, oui, bien sûr. Sur
Est-ce
le fond,
les a amenés
oui.
jusque-là.
Non, mais sur le fond, oui. Mais il y a d'autres critères qui viennent d'une autre culture que là. C'est la raison pour laquelle. Mais en même temps, j'ai bien compris votre retour. Je suis quand même pas con. C'est la raison pour laquelle je vous répondrai indirectement. Si l'autre jour j'étais en pétard par rapport à Éric Zemmour, d'accord. Moi, j'ai rien ni pour ni contre le bonhomme. Il a le droit d'exister. En revanche, quand j'entends un certain nombre de conneries, de faux, je connais bien le monde arabe. Je connais bien, assez bien l'islam. Et je connais bien l'ignorance qui est cultivée et par les uns et par les autres. Et que ça aboutit à des émours en tant que le côté public du personnage où je vois une espèce de côte qui est en train de grimper. Et la première des choses, que peut nous dire ce bonhomme-là, c'est qu'il va falloir, je fais court, et il va falloir que Mohamed devienne Jacques. Voilà. Là, il y a quelque chose qui m'a alerté.
Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler du comportement, justement, de quand on, parce qu'on a du mal, là.
Oui, mais je vous disais que moi, c'est pas mon objet. Parce que si c'est mon objet, vous m'invitez sur une émission sur les Arabes et j'y serai.
Non, je parlais pas des Arabes.
Mais qui c'est qui a fait les attentats?
C'est voilà, dans la justice. Bah, je sais pas, il y en a.
C'est des mecs qui disent Allahu Akbar.
Oui, mais il y avait des Français aussi qui sont partis faire le djihad.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et tous ces gens-là, les Français d'une façon dans leur culture de franchouillard. Les autres, les Arabes d'une autre façon dans leur culture arabe. Il y a des choses à comprendre. Ouais. Ce sont de toute façon des humains.
Est-ce qu'on va rechercher leur souffrance psycho-affective
mais non, mais,
et sexuelle
mais on, voilà, c'est ça. On, c'est, je vous dirais, Serge, on, c'est un con qui connaît pas son nom. Non, mais vous pouvez imaginer qu'un mec comme moi qui a fait ce trajet-là, je vais pas chercher les souffrances. Aujourd'hui, je les accueille. Ce qui est complètement autre chose. Les gens me connaissent suffisamment dans Avignon et autour. J'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Ça arrive. Mais parce qu'ils ont une demande. Ils ont une demande. Nordal-Lelandais, pour aller vers d'autres sphères, n'a pas de demande. Ils risquaient pas, fourniraient pareil. Ils n'ont pas de demande. Ils ne savent pas ce que c'est que ça. Ce sont des gens qui, d'une certaine façon, comme celui qui a tué mon fiston, ils sont paumés, Serge. Voilà ce que je dis. Ils sont paumés. Mais s'il n'y a pas de demande, vous ne pouvez rien faire. Les limites d'aider l'autre, c'est la demande.
Ah oui, d'accord. Si l'autre n'est pas en demande.
Mais on veut pas aider les gens malgré eux. C'est quoi? Ou alors à un moment donné, je vais mettre l'étiquette du curton, quoi.
D'accord.
Et je vais me raconter des salades sur le sauvetage des autres.
Bien. Et ça nous amènerait à quoi? Donc, une réforme de la justice? Une réforme.
Je dis que d'abord, il s'agit pour moi, quand j'ai écrit ce recueil, de comprendre le fond, c'est-à-dire le changement de paradigme. C'est fondamental. C'est pas d'aller tout de suite vers les objets. C'est d'abord de comprendre l'esprit. Si l'esprit est entendu, alors on va passer à autre chose. C'est la fin de ce recueil où je dis bien, là, il va falloir commencer à penser, mais penser de façon avec l'esprit de cet écrit, quelles sont les incidences factuelles, les déclinaisons factuelles. Et là, on va avoir à repenser tout. À repenser d'abord. Et ensuite, on verra que si on est cohérent avec ça, on ne peut plus faire la prison comme elle est aujourd'hui. On ne peut plus accompagner soi-disant les jeunes des cités comme on les accueille. Il y a plein de choses que ça va modifier. Mais moi, Jean-Jacques Gérard, je n'ai pas la prétention de faire tout ça, moi tout seul. En revanche, de sensibiliser un certain nombre de personnes, peut-être d'arriver à faire un groupe de travail comme je le souhaitais. Je suis allé à l'Élysée pour ça. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais... Après, il y a le politique, au sens large. Le politique, dans une certaine... Par rapport à ça, mais à mon avis, pour le moment, il sera complètement sourdingue.
C'est le dernier mot du recueil, hein, sensibiliser le politique.
Tout à fait. Mais le sensibiliser, c'est parce qu'il est sourdingue. Mais une fois, quand vous avez fait un groupe de travail, que vous avez un 60 pages ou un 70 pages qui a été pensé dans la pluridisciplinarité, important, même un philosophe, il a ses trucs à dire, un sociologue, un psychologue, un historien du droit. Voilà des gens qu'il faut convoquer là. Ils sont concernés. Donc, ensuite, on fait une synthèse. On fait une synthèse, on a 60 pages. Là, ça commence. Là, on a quelque chose. On va avoir des repérages dans tous les champs institutionnels, des déclinaisons. On pourrait même dire cliniques. C'est-à-dire la façon de travailler. Voilà. Mais ça change, on va complètement changer la carte du monde. Je vais vous donner, à titre d'exemple, les éducateurs spécialisés, pour ne parler que d'eux, tiens, les éducateurs que j'ai largement fréquentés, mais il y en a combien qui ont trouvé la détresse qui était en eux? Ils la projettent sur l'environnement, ils veulent sauver tout le monde, ils ne sont pas sauvés eux-mêmes.
C'est ce qu'on disait un peu au début,
c'est ça.
Tant qu'on n'a pas réglé
c'est ça.
Certaines
mais,
choses
mais
en
vous
soi.
Voyez, on ouvre une fenêtre, on ouvre la fenêtre, mais du coup, c'est plus la même formation. C'est plus la même formation. Moi, les gens qui soient sourdingues, les gamins qui sont en détresse, ils n'en ont pas besoin. Donc, c'est une autre formation qui va s'ouvrir. Le champ des formations va être complètement différent, etc. Et rien qu'avec ça, puis après, il y aura à parler qu'est-ce que c'est que la supervision clinique. Vous n'imaginez pas l'ignorance qu'il y a dans ces sentiers du soi-disant social. La plupart beaucoup de directions se soucient de la vitrine. Juste de la vitrine. Mais derrière la vitrine, il n'y a rien. Et ça, c'est mes constats de superviseur, de consultant, à tous les niveaux. Mais les gens, ils n'aiment pas entendre parler de ça. Comme ça.
Non. Ben non.
Voilà. Donc, si le bonhomme, il n'avait pas fait tout le chemin qu'il a fait, peut-être même il n'oserait pas. Même le Douville me dit, je trouve que c'est vachement courageux ce que vous faites. D'une, je trouve que c'est très juste, mais deux, c'est vachement courageux, quoi. Mais courageux, c'est relatif au fait qu'il y a des espèces de connivence implicite dans les champs du social. Vous imaginez pas. Mais moi perso, qui accompagne les gens, y compris les gens du social, y compris des psychos. Donc, c'est nourri par aussi le témoignage d'un certain nombre de patients.
Ce recueil, vous l'avez écrit pour vous ? Vous le distribuez ? Comment
Non, j'ai écrit ça.
On peut se procurer, on peut vous appeler pour le demander.
Pardon, je manquais de contextualiser. Mm. Ok, alors ce recueil, c'est simple. On s'adresse à moi par mon adresse courriel. Alors l'adresse courriel, c'est j.gerard, G-E-R-A-R-D, 84@yahoo.fr. Et on s'adresse à moi, et puis il en coûtera le prix du recueil, prix de revient, hein, moi je gagne rien là-dessus, prix de revient plus un timbre, ça fera 5 euros.
D'accord. On peut donc, oui, les auditeurs, si ont envie de partager, de comprendre tout ce que vous essayez de nous dire dans...
Ah ben c'est sûr que là, c'est encore une fois, je pense que le cœur du cœur, c'est vraiment cet épitaphe sur la tombe de François.
Il est mort de la détresse.
C'est ça. Il est victime de la détresse d'un autre. L'autre était en détresse.
On peut le reporter dans beaucoup de situations de la vie. Hein. Même dans un couple, hein, des fois, l'un est victime de la détresse de l'autre.
Je suis bien d'accord avec vous. Bien sûr. Les détresses qui ne disent pas leur nom, qui ne peuvent pas les dire. C'est pour ça que je ne veux pas incriminer les gens ou les culpabiliser. Parce qu'ils n'ont pas accès. Et c'est une notion qui est très difficile. Alors les gens disent, ouais, j'ai lu Freud, j'ai lu Jung, j'ai lu machin, l'inconscient, ta. C'est du baratin. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est d'une puissance, le plus fort que soit, Serge, que je développe quand même là-dedans. Mmh. Et laissez-vous entendre que chacun se laisse entendre, lui, pas qu'il cherche l'autre, mais lui-même, les chaque fois, et je suis sûr que chacun a plein d'exemples. Ben, c'était plus fort, ça veut dire qu'en moi, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Et ben ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Mais c'est ça. Et c'est mieux de l'appeler le plus fort que soi, parce qu'au moins, ça parle à tout le monde.
Oui, on comprend beaucoup mieux.
C'est ça. Mmh. Le plus fort que soi, en soi. Pas dehors, dedans.
L'ennemi intérieur, comme disaient
certaines
séries américaines.
Mais l'ennemi intérieur dont nous avons, et c'est une grande partie de mon boulot, à apprendre à le laisser parler. Mais ça, on ne peut pas le faire seul. Ça, on a besoin là d'être accompagné parce que ce n'est pas possible.
Eh bien, Jean-Jacques Gérard, merci beaucoup.
Okay.
On se reverra peut-être bientôt pour parler plus de Zemmour et de tout ça, si vous voulez, parce qu'apparemment, il y a des sujets à développer. Mais là, je voulais qu'on reste quand même autour
de votre recueil, parce
que je pense que ça touche beaucoup de monde.
Mais en même temps, vous avez bien entendu.
Ça peut nous intéresser, c'est un regard, une vision, une approche qui change.
Ouais,
et en même temps, plus on le lit, plus on se dit, mais il a parfaitement raison, on est humain.
C'est ça.
Il faut arrêter de voir le
méchant
loup partout.
Mais vous avez très bien compris. C'est un recueil qui s'adresse à l'humain de chez humain.
Mais oui.
La pierre angulaire de ce recueil, vous voyez, au-delà même de l'épitaphe qui est signifiante, mais c'est l'humain. Comment trouver l'humain en soi ? Eh ben, l'humain, c'est pas le parfait, c'est ni l'imparfait, c'est le vulnérable.
Voilà. Mais c'est aussi celui qui comprend l'autre et qui essaye d'avancer avec l'autre.
Il avance, c'est-à-dire il peut comprendre l'autre s'il s'est compris lui-même. Sans ça, c'est du bidon. Il peut se raconter tout un tas de salades.
Bien, bon, on va rester là-dessus.
Ok, ça marche.
Merci Jean-Jacques.
Merci Serge.
À une prochaine. Okay. Je rappelle votre recueil, François, Un chemin dans mes ténèbres. Et pour nos auditeurs, si vous désirez en savoir un peu plus ou avoir ce livre, bah vous écrivez j.gérard84@yahoo.fr.